transversale et je retrouve ce matin pour le troisième et dernier volet de la semaine mes deux invités. Hélène Faure, chanteuse et comédienne, et Frédéric Berry, ici présent. Nous sommes aujourd'hui donc le jeudi 19 février. Le théâtre de la mer, l'air de la mer, un lieu des rencontres, des créations, des ateliers de théâtre, d'écriture, de chant. Comment tout cela s'articule? Bonjour à vous deux et
bonjour.
Je vous laisse
bonjour.
Répondre à cette question. Frédéric.
Alors, comment ça s'articule? Alors déjà, on va élucider une question qui nous taraude, hein, on va dire.
Absolument.
Ça comme ça.
L'air de la mer et le théâtre de la mer. Quelles sont ces deux entités et pour quelles raisons?
Alors, les deux entités, c'est le théâtre de la mer. Le théâtre de la mer, c'est une compagnie. C'est une compagnie qui, à 40 ans, a été créée par Akel Akian, Frédéric Fusibé, d'autres personnes gravitaient autour aussi de cette compagnie, et le théâtre de la mer, parce que justement la compagnie traitait beaucoup de sujets autour de tout ce qui était le bassin méditerranéen. Il y avait un hommage aussi à alors le nom m'échappe, excusez-moi, mais d'une compagnie qui était justement en face de Marseille, sur le continent africain, en Algérie, qui portait aussi ce nom-là, qui avait un lieu et qui s'appelait comme ça. Et donc la compagnie avait envie de trouver quelque chose qui lui rende hommage et qui soit aussi ancré profondément dans les racines et dans ce qu'elle voulait développer au travers son travail. Donc la compagnie s'est créée et s'est appelée le Théâtre de la Mer très naturellement. Pendant 40 ans, donc, la compagnie a œuvré et a été mise un petit peu comme une compagnie, a joué un petit peu partout sur Marseille et ses alentours. Et à un moment donné, il y a eu l'envie de se poser pour justement, pas augmenter son volume de travail, mais intensifier au niveau qualitatif, surtout, le travail qu'elle menait sur le terrain avec les différentes populations des différents quartiers et tout
et
ça.
Et peut-être donner également une identité.
Et donner une identité, voilà, un peu plus forte. Et il lui fallait un lieu à un moment donné pour pouvoir poser ses bagages et pour pouvoir justement travailler différemment, mais avec une meilleure qualité de ce qu'elle savait faire, de ce savoir-faire qui est propre au Théâtre de la Mer. Et donc on a eu un lieu. Et ce lieu, il lui fallait lui donner un nom. Alors ça ne pouvait pas être le Théâtre de la Mer, parce que c'était déjà pris par la compagnie. Donc il a été décidé de rester autour du mot.
De l'air.
Et de l'air.
De la Méditerranée.
Et donc on a appelé le lieu. Donc le lieu s'appelle l'air de la mer et la compagnie s'appelle le théâtre. Et c'est la compagnie qui gère en effet ce lieu-là.
On a vraiment l'impression, en tout cas pour moi, à chaque fois que je travaille sur le théâtre de la mer, j'ai l'impression que c'est le contraire. Mais c'est personnel.
Mais non, mais c'est bien de le dire comme ça, parce qu'au moins, les gens qui nous écoutent pourront maintenant ne plus se tromper. Quand on va au théâtre de la mer, on va voir la compagnie qui joue dans un lieu qui s'appelle l'air de la mer.
Très voilà. Bien. Alors, après avoir évoqué les mille et un mots, nous allons aborder ce matin les filles du refuge. Sur ce sujet, Hélène Faure, ce qui vous tient à cœur, qu'avez-vous à nous dire et de quoi est-il question? Je vous laisse répondre.
Alors, les filles du refuge. Les filles du refuge, c'est un groupe de femmes de tous les âges, ça va de 12 ans à quasiment 90 ans, qui vous racontent une histoire, vous parlent d'elles et chantent. Voilà, ça c'est très résumé. Alors maintenant, évidemment, je vais rentrer dans le détail.
Si vous permettez, je vais juste, parce que j'ai cherché les filles du refuge, puisqu'on connaît le couvent du refuge à Marseille, tout ça c'est connu à Marseille, mais on ne sait pas vraiment.
Pas par tout le monde.
Peut-être pas par tout le monde, mais enfin. Donc je me suis intéressée à ça, et voilà ce que j'ai lu. À la demande des consuls, une maison est achetée par la ville de Marseille en 1647 pour y loger la fondation de Saint-Joseph destinée à venir au secours des prostituées. Celle-ci entrait par la rue des Honneurs, en un seul mot, actuellement rue des Honneurs en deux mots, ce qui veut dire tout le contraire, bien évidemment. Et après un séjour de rééducation, ressortait, je cite, hein, par la rue des Repentis, et durant leur détention, leurs cheveux étaient coupés, car c'était les cordes par lesquelles le diable les tenait captives. C'est une citation du livre d'André Bouyala d'Arnaud, qui fait référence en la matière sur les vocations du vieux Marseille. Voilà, moi c'était juste oui, poser c'est... cette chose-là oui. dans un premier temps. Je vous laisse la parole, Hélène Force.
Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est donc au XVIIe siècle, c'est une, l'époque que Foucault appelait le grand renfermement, c'est-à-dire qu'on décide de cacher tout ce qui peut être compliqué dans la société, qui ne valorise pas la société, donc les mendiants, les pauvres, etc., les bohémiens, les étrangers, les bandes d'enfants, les malades, et évidemment les prostituées, c'était une grosse épine dans le pied d'une société qui ne voulait montrer, voilà, qui voulait cacher au roi ce qui n'était pas une valeur pour elle. Et donc on décide de cacher les prostituées. Voilà, pas finalement pas de les interdire. Avant, elles étaient plus ou moins interdites, mais évidemment ça. Mais de les cacher. Et donc on décide de construire pour elles le couvent du refuge. Là, dans ce que vous avez lu, il y a un verbe assez positif. Je ne sais pas. On dit que c'est pour les protéger.
Destiné à venir au secours.
Voilà, au secours.
Au secours.
Voilà. Alors évidemment, le secours. Voilà, c'était sur le papier comme ça, c'est très gentil, c'était en fait, on peut dire, une prison
ouais.
et des travaux forcés, hein. Très très vite. Alors il paraît qu'au tout départ, elle pouvait plus ou moins sortir pendant la journée, mais ça n'a pas duré longtemps parce que, bon voilà, c'était pas un hôtel, donc elle rentrait pas forcément le soir. Donc en fait, les femmes étaient enfermées, soumises selon les mots du roi aux travaux les plus durs que leurs forces pourront permettre. Elles dormaient sur des paillasses, il n'y avait pas de chauffage, elles étaient malades, on les soignait pas. Très souvent, elles y passaient leur vie entière. C'était...
Qui
était courte, bien sûr. Effectivement, à leur arrivée, on les rasait. L'encadrement, c'était des religieuses. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au tout départ, donc, c'était pour éradiquer la prostitution, la rendre invisible, sachant qu'à l'intérieur, il y avait de la prostitution, que les sœurs prostituées, les détenues, que tout ça, c'était avant tout pour une question religieuse. C'est parce qu'en fait, l'enfermement de ces jeunes filles servait à purifier toute la ville. C'est-à-dire que la peste était due à aux mauvaises conduites de la femme en général.
Bien entendu.
Et donc, heureusement, ces femmes pouvaient laver les péchés de la ville et les bourgeois pouvaient dormir sur leurs deux oreilles parce que ces femmes donc purifiaient la ville par leur souffrance. Voilà, enfin, vous voyez bien évidemment le côté ironique de l'histoire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que cet outil de répressif a été fonctionné très bien, très rapidement, ça rendait service à tout le monde, on en a profité pour enfermer toutes les femmes considérées comme gênantes. Et pour ça, il suffisait d'une dénonciation. Par exemple, si vous aviez envie de vous débarrasser d'une jeune sœur pour une histoire d'héritage, il suffisait de dire que vous l'aviez vue en train d'embrasser un garçon dehors. Hop, elle était enfermée au refuge. Qu'est-ce que j'ai lu ? J'ai lu comme ça beaucoup de lettres de dénonce. Ou par exemple une femme, une des sœurs dans une famille qui avait eu une éducation un petit peu moins aboutie que ses frères et sœurs et qui donc était poissonnière. On estimait que dans la famille elle avait à franc-parler, elle n'était pas assez classe pour les autres. Hop, enfermée au refuge pour des prétextes fallacieux, etc. Donc c'était aussi une manière de se débarrasser de toutes les filles ou femmes qui ne convenaient pas à leur père, à leur frère.
Donc voilà. Là nous sommes dans l'histoire.
Là on est dans l'histoire vraie. Voilà.
Mais concernant le spectacle.
Alors, tout départ,
qui sont ces femmes déjà ?
Alors, qui sont ces femmes au départ ? Alors, c'est parti d'un groupe que j'ai fondé, que nous avons fondé maintenant il y a plus de 10 ans, autour du théâtre de Lanche, donc du quartier du Panier, un groupe de femmes qu'on a appelé les mamies du Panier, donc des personnes âgées qu'on a trouvé petit à petit en essayant vraiment de constituer un groupe fait de rencontres avec des personnes singulières, c'est-à-dire qu'on n'est pas passé par des associations, on n'est pas passé par des groupes déjà existants. Et donc ce groupe de femmes singulières se sont réunies avec moi et un pianiste une fois par semaine pour raconter des histoires, écrire des chansons, apprendre des chansons, voilà, avec un spectacle fait
fait en fin d'année.
Mais qui a à voir avec l'histoire de Marseille.
Alors, pas forcément. Non, au départ,
non, c'est simplement le site du panier avec ces gens-là que vous avez recrutés en quelque sorte.
Au départ, c'était...
Mais pour quelle raison?
Au départ, c'était la richesse humaine. Alors, pour quelle raison? Parce que tout au départ, si on faisait historique, en été, j'étais avec la compagnie L'Art de Vivre en résidence au Théâtre de l'Anche. Et ils nous avaient demandé de faire une action dans le quartier. C'était en 2003. Et en fait, bon, maintenant, c'est un petit peu plus convenu. À l'époque, ça ne l'était pas du tout. J'ai eu envie de trouver les personnes très âgées du quartier pour travailler avec elles. Donc, c'était plus le questionnement de l'échange avec des personnes extrêmement âgées qu'on n'entendait pas beaucoup.
Et la mémoire du quartier.
Voilà, la mémoire un petit peu, mais ça c'est un petit peu plus habituel de travailler sur la mémoire du quartier. Finalement, c'est pas tellement ça qui m'intéressait, c'est plus comment est-ce qu'on pense, comment on s'exprime, comment est-ce qu'on peut créer quand on a 90 ans. Je sais pas si vous avez remarqué, les personnes âgées sont silencieuses. Disons qu'il y a celles qui parlent beaucoup parce qu'elles sont habituées à se donner en spectacle,
à raconter,
mais finalement quand on dit ça, on ne dit rien. C'est quelque chose d'extrêmement agréable, c'est un spectacle. Et moi j'ai remarqué que plus on vieillissait, plus il nous arrivait des choses difficiles, il y avait eu des deuils, des maladies. Finalement, mes parents sont extrêmement âgés. Quand leurs meilleurs amis, évidemment, sont tous en train de décéder, eh ben, le décès du meilleur ami, on en dit une phrase. Voilà. Finalement, quand on est très âgé, on se tait. Et ça ne veut pas dire pour ça qu'on n'a rien à dire. Alors qu'évidemment, le décès d'un ami extrêmement proche, quand on a 40 ou 50 ans, ça déclenche beaucoup de paroles. Et donc, c'était plutôt ça, moi, qui me
questionnait. Une histoire humaine.
Une histoire humaine, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit quand on est très âgé, puisque finalement, quand on est très âgé, on ne dit rien. Voilà, on écoute les autres, et alors qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc, au fur et à mesure de ces rendez-vous, qui ont créé une intimité et un espace de liberté, une parole différente a surgi. Extrêmement joyeuse, extrêmement vivante et surtout jamais dans les sentiers battus, parce que c'est un espace de parole que spontanément la personne très âgée ne donne plus parce qu'elle n'ouvre plus cet espace. Donc c'est ça qui a été créé pendant 10 ans avec les mamies du panier, et on faisait des spectacles, donc toujours dans la fantaisie, la joie et le partage. Et là maintenant j'ai créé 2 autres groupes, un groupe de femmes d'une quarantaine d'années du quartier du panier et un groupe de jeunes filles de 12-13 ans.
Et c'est donc ce qu'on peut voir sur le net d'ailleurs.
Exactement. Donc on raconte l'histoire du refuge, mais évidemment c'est aussi un prétexte pour parler de la place de la femme. Par exemple, vous parliez de la chevelure, la question de la chevelure. Donc là, le diable rentre par les cheveux. Donc évidemment, là, quelle est la question de la chevelure quand on a 90 ans, quand on a 12 ans, quand on est de confession musulmane ou pas, ou chrétienne ou pas, et donc le voile, les cheveux, pas les cheveux, etc., etc. Donc tout ce qui est questionné par le refuge ouvre encore une fois aujourd'hui des questions complètement d'actualité. La place de la femme, est-ce que c'est l'homme qui décide, est-ce que c'est pas l'homme qui décide, est-ce le frère qui enferme pas, le mariage, pas le mariage. Et évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, à partager entre ces générations.
Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que justement, aujourd'hui, vous avez des jeunes filles et il y a vraiment une transmission des personnes âgées aux jeunes, et les jeunes qui ont des tas de choses à apprendre des personnes âgées. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant.
Voilà. Alors la plus belle chose, c'est qu'il y a une joie terrible qui se dégage de tout ce travail et de toutes ces journées. C'est la chose la plus énorme. Et c'est en fait ce dont je suis le plus fière, parce que l'idée du récit de cette prison du refuge, évidemment, ce n'est pas pour se lamenter sur la difficulté de la vie, mais c'est pour y opposer notre désir de liberté et notre force de vie, en se disant que face à ces difficultés, nous, on fait le pari que notre vitalité ira jusqu'au bout et notre désir de liberté ira jusqu'au
bout. Jusqu'au bout
aussi. Voilà, jusqu'au bout aussi. Et c'est ce qui se passe entre ces jeunes de 12 ans et ces mamies. Et elles sautent dans les bras l'une dans l'autre chaque fois qu'elles se voient. Et ça parle, et ça parle, et ça parle. Et elles ont des idées plus merveilleuses les unes que les autres. Et c'est formidable.
Je crois qu'on ne peut plus vous arrêter là. C'est tellement vous êtes passionnée.
Je vous avais dit qu'il ne fallait pas en parler.
Alors, est-ce qu'on peut voir ces spectacles? Vous appelez ça des spectacles? Ce sont des spectacles ou pas?
Alors, oui, bien sûr. C'est tout à fait parce que j'ai oublié de vous dire que ce sont des chansons, qu'il y a un pianiste, qu'on écrit des chansons ensemble. D'accord. Et que c'est avant tout un spectacle musical.
Très bien. Qu'on peut voir éventuellement.
Oui, alors on a joué à la Bibliothèque du Panier, on a joué à plusieurs endroits, au Théâtre de la Mer. Il y a, diverses facettes. Et la prochaine, c'est au Théâtre des Bernardines le 24 avril.
Une date à retenir, absolument, le 24 avril au Théâtre des Bernardines.
Voilà, moi je rajouterais juste une chose, parce que justement, ce projet est un projet qui prend racine il y a très longtemps, mais ce projet spécifique, Les Filles du Refuge, qui est donc un projet intergénérationnel, est un projet que l'on mènera, que l'on mène depuis maintenant un an et demi, on va dire, mais qui va continuer, il ne va pas s'arrêter simplement aux Bernardines. Après,
ça va se poursuivre,
il faut le suivre, parce que l'idée est justement de pouvoir déconstruire ensuite, parce que c'est un groupe où il y a 25 personnes sur un plateau, c'est pour ça qu'on joue aussi au Bernardine qui nous accueille, qui est devenu partenaire de ce projet. Mais ensuite, on le déconstruira pour le jouer dans d'autres lieux sous des petites formes. Et c'est un projet, c'est très important quand même de le dire, qui est en partie financé, pas dans sa globalité, mais qui est en partie financé sur des fonds qui nous proviennent de la Fondation de France.
Très bien. Alors, très rapidement maintenant, il nous reste peu de temps pour évoquer justement la programmation jeune public avec le Circo Plumeau.
Ouais, alors
ce sera fin mars et Miss Payette en mi-mai. En quelques mots.
Oui, en quelques mots.
Puisque vous êtes le responsable de la programmation jeune public, donc je vous laisse en parler rapidement.
Oui, on va faire très rapide parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des Filles du Refuge, mais ce qui est normal parce que c'est un projet qui moi-même me touche beaucoup et que je trouve très intéressant. Le Théâtre de la Mer depuis très longtemps a des spectacles de différentes formes et notamment des spectacles jeune public. Et c'est vrai que depuis que je suis arrivé au Théâtre de la Mer, il y a à peu près maintenant un an et demi, l'envie de développer un petit peu plus le volet jeune public s'est fait ressentir par rapport à un travail de quartier avec les écoles de proximité. Et du coup, on donne rendez-vous à peu près une fois par mois, le samedi matin à 10h, pour une séance où on a un spectacle qui s'adresse aux familles et donc un spectacle jeune public. Donc la dernière fois, on avait vu ça donc mardi, on en avait parlé de Noura, qui était donc le spectacle qu'on avait joué la semaine dernière. Là, on vous donne rendez-vous avec El Circo Plumeau, qui est qui se jouera le 28 mars à 10h et qui est un spectacle de bricolage fait de bouts de fil de fer, un peu inspiré par rapport au cirque de Calder, justement, et qui est donc qui reprend l'univers du cirque en forme de théâtre d'objets. Et on se donnera encore rendez-vous une nouvelle fois. Le dernier rendez-vous jeune public de la saison, ça sera le 16 mai, toujours le samedi matin à 10h, où là on invite Miss Payette, qui est une chanteuse de Marseille, que l'on a pu voir sur différentes scènes, notamment au Lanche, et qui là revient avec la sortie de son dernier album. Et c'est vraiment un spectacle qui s'adresse à partir de 3 ans, où si vous avez envie de faire connaître à votre enfant les émotions d'un concert avec des vrais chanteurs, de la vraie musique sur scène en live, je vous invite à venir voir Miss Payette. C'est vraiment extraordinaire.
Voilà. Nous y viendrons. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus jusqu'à nous.
Merci
C'était
à vous.
Un vrai
Merci
plaisir.
Beaucoup.
Et les réservations au Théâtre de la Mer, c'est le 09 53 29 03 53 ou encore théâtre-de-la-mer@free.fr. C'est bien ça?
Alors non,
c'est
ça a changé. Non, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire sur le site internet en allant sur www.théâtre-de-la-mer.fr ou alors par internet partenariat avec un S @letheatredelamer.fr.
Merci encore à vous
Merci
deux.
Bien.
Merci aux auditeurs Merci. De Radio JM. Merci à Amy Chiolare qui nous a accompagnés cette semaine. Les transversales sont finies pour cette semaine. Et vous pourrez toujours retrouver cette émission sur le site des transversales www.les-transversales.fr. Et on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt et merci encore.